Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonjour plutôt. Nani Talani vous accueille pour votre rendez-vous quotidien pour faire le point sur l'actualité. Au sommaire aujourd'hui, au moins 50% des emplois dans la fonction publique doivent être occupés par des hommes d'ici 2030. Telle est la loi pour l'égalité des genres que le Ghana a promulguée. Tension au Moyen-Orient, Washington renforce sa présence militaire face à l'escalade. Dernier discours de Joe Biden à l'Assemblée générale de l'ONU, dont le débat général s'ouvre ce mardi. Nous y reviendrons dans nos magazines, de même que l'adoption au Togo d'un nouveau cadre électoral.
Ce projet d'ordonnance portant fraude électorale permet donc de remédier aux insuffisances relevées dans le texte précédent et de respecter les nouvelles exigences en matière électorale.
Côté économie en RDC, Air Congo prépare son vol inaugural. En sport, mondial de futsal en Ouzbékistan, le Maroc est le seul drapeau africain en 8e. Restez avec nous pour davantage de détails sur ces sujets et bien plus encore. Voici le journal. Une fois de plus, bonjour. L'Assemblée générale annuelle de l'ONU commence ce mardi à New York. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont des Africains, vont s'exprimer à la tribune de l'organisation cette semaine. Le président américain Joe Biden, lui, va prononcer son dernier discours à la tribune de l'ONU. Michel Joseph.
C'est la dernière fois que Joe Biden va s'adresser à un forum international majeur où des centaines de dirigeants se réunissent chaque année. Le président américain va sans doute évoquer Gaza. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté la semaine dernière une résolution exigeant qu'Israël mette fin à son occupation du territoire palestinien dans les 12 prochains mois. Les États-Unis figuraient parmi les 14 votes à dire non. Joe Biden va aussi revenir sur son soutien à Israël et à l'Ukraine, deux défis majeurs à la fin de sa présidence. Les dirigeants africains, eux, devraient revenir sur leur demande de réforme des institutions financières internationales, mais aussi du Conseil de sécurité de l'ONU, entre autres. Dimanche, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a estimé qu'il est injuste, inéquitable et insoutenable de confier la sécurité du monde à un petit nombre de pays. Les États membres de l'ONU ont adopté dimanche un pacte pour construire un avenir meilleur pour l'humanité éprouvé par les guerres, la misère et le réchauffement climatique. La Russie s'est vainement opposée à l'adoption de ce pacte pour l'avenir.
Les autorités burkinabées ont affirmé hier soir avoir déjoué plusieurs tentatives de déstabilisation impliquant, selon elles, un ancien président de transition et d'autres ministres, des anciens ministres disant « Nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation aussi pernicieuses qu'incessantes », a indiqué le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, dans une déclaration lue à la télévision nationale. Selon le ministre de la Sécurité, la première attaque, précurseur de cette opération de déstabilisation, était celle du 24 août à Barsalogo, dans la région du centre. L'adoption définitive d'une loi sur l'égalité des genres au Ghana, près de 30 ans après avoir été envisagée pour la première fois, porte la promesse d'un changement sociétal qui permettra aux Ghanéennes d'occuper plus de postes à responsabilité. Le point avec Eric Manirakiza.
Le président Nana Akufo-Addo a promulgué la loi dite sur l'action positive et l'égalité des genres moins de 3 mois avant l'élection présidentielle prévue le 7 décembre qui élira son successeur. La loi votée en juillet par les parlementaires invite les services publics de sécurité, l'appareil judiciaire, le Parlement, les partis politiques, les syndicats et le secteur privé à s'assurer de l'égalité des genres. Elle impose notamment qu'au moins 50% des emplois dans la fonction publique et les postes de décision soient occupés par des femmes d'ici 2030. Les entreprises du secteur privé devront mettre en place des quotas de postes réservés aux femmes, en échange de quoi elles recevront des avantages fiscaux. Le New Patriotic Party, NPP, au pouvoir, a promis de créer une banque de développement pour les femmes offrant des prêts à faible taux aux entreprises qu'elles dirigent et détiennent. De son côté, le National Democratic Congress, NDC, opposition, a promis de créer un fonds d'autonomisation du commerce et des femmes pour soutenir les entreprises détenues par des femmes. Actuellement, moins de 15% des parlementaires ghanéens sont des femmes.
La guerre au Soudan a été au cœur des discussions hier à Washington entre les présidents américains Joe Biden et Émirati Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, qui ont également abordé le conflit en cours au Moyen-Orient. Les deux dirigeants ont exprimé leurs préoccupations communes face au risque d'atrocité imminente au Soudan, où les Émirats arabes unis sont accusés de jouer un rôle et alors que les combats se poursuivent au Darfour. Ils ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. Ils ont également insisté sur la nécessité pour toutes les parties de respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international. Par ailleurs, la vice-présidente Kamala Harris a rencontré le dirigeant émirati pour lui faire part de ses profondes inquiétudes concernant le conflit au Soudan. En Tanzanie, les principaux dirigeants de l'opposition ont été libérés hier soir après avoir été arrêtés par la police qui avait empêché une grande manifestation dans la capitale commerciale Dar es Salaam. Plus tard, dans la soirée, leur parti Chadema a annoncé sur X que Freeman Mbowe et Tundu Lissou, ainsi qu'au moins un autre membre du parti, avaient été libérés sous caution. Cependant, M. Mbowe a décidé de rester au poste de police jusqu'à ce que tous les autres membres et partisans arrêtés lors de la manifestation soient également libérés sous caution, a déclaré le Chadema.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis vont envoyer un petit nombre d'effectifs militaires supplémentaires au Moyen-Orient en réponse à la montée des tensions régionales en pleine escalade entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais. L'annonce a été faite par le Pentagone. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
À la lumière des tensions accrues au Moyen-Orient et par mesure de précaution, nous envoyons un petit nombre de militaires américains supplémentaires afin de renforcer nos forces déjà présentes dans la région. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, refusant de donner davantage de détails pour des raisons de sécurité. Les États-Unis ont déployé des milliers de soldats dans la région et des navires militaires, des avions de combat et des systèmes de défense aérienne destinés à protéger Israël et les forces américaines sur place. L'armée israélienne a indiqué hier avoir frappé 1300 cibles du Hezbollah au Liban, faisant plus de 350 morts parmi lesquels 24 enfants, selon les autorités libanaises. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a promis de continuer à attaquer Israël jusqu'à la fin de l'agression à Gaza, assiégée et ravagée par la guerre depuis près d'un an. Le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian a accusé Israël de chercher à élargir le conflit au Moyen-Orient. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit très sérieusement inquiet du nombre de victimes civiles dans les frappes israéliennes sur le sud et l'est du Liban, selon son porte-parole.
Le Pentagone va dédier 500 millions de dollars par an à la recherche pour la santé des femmes, selon une annonce de la première dame des États-Unis, Jill Biden, dans le cadre d'une incitation plus globale de la Maison-Blanche sur ce sujet. Ces fonds iront à la recherche sur l'arthrose, la fatigue chronique, les troubles cardiovasculaires. Ces recherches doivent d'abord concerner les femmes employées par le Pentagone, avant de bénéficier à toutes les femmes. Le Japon a lancé une alerte au tsunami pour des îles éloignées au large de Tokyo à la suite d'un séisme dont la magnitude a été évaluée à 5,6 par l'Institut américain d'études géologiques. L'alerte concerne les îles Izu et Ogasawara qui pourraient connaître un tsunami d'un mètre selon l'agence météorologique japonaise qui a appelé les gens à quitter les rivages. La côte pacifique du sud du Mexique est en alerte à l'approche d'un nouvel ouragan qui est rapidement passé en catégorie 2 et devrait toucher terre ce mardi, selon les prévisionnistes. L'ouragan devrait aujourd'hui être classé en catégorie 3, un niveau considéré comme potentiellement destructeur. Les autorités conseillent à la population de suivre les recommandations données. Le représentant de l'État français en Martinique a annoncé la prolongation jusqu'à jeudi du couvre-feu partiel en place depuis le 18 septembre. Il a précisé l'étendue à un quartier populaire du chef-lieu fort de France, épicentre des violences urbaines sur cette île française de la Caraïbe. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. La BOAD veut électrifier des localités rurales au Togo. En RDC, Air Congo prépare son vol inaugural. Accord de garantie entre le Rwanda et la Suède en faveur des PME à Kigali. Voici nos actualités économiques avec Claire Morin-Gibourg.
La Banque Ouest-Africaine de Développement a approuvé le décaissement de 6 milliards de francs CFA pour renforcer l'électrification rurale au Togo. Cette nouvelle tranche de financement va impacter 172 localités. Le gouvernement togolais vise la couverture universelle en électricité d'ici 2030. Le taux de couverture était de 66% en 2023. En République démocratique du Congo, le premier vol inaugural d'Air Congo SA est prévu le 1er décembre 2024, a annoncé le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo, en Conseil des ministres. Cette nouvelle compagnie aérienne est un partenariat entre le groupe d'Ethiopian Airlines et la RDC. Ce projet avait été lancé en 2021, alors que le contrat de leasing qui liait Kenya Airways et Congo Airways n'avaient pas été renouvelés. La banque commerciale rwandaise Banque de Kigali a conclu un accord de garantie de portefeuille de prêt d'un montant de 10 millions de dollars avec l'ambassade de Suède au Rwanda. Les PME des secteurs de l'agriculture, l'énergie, la construction et l'hôtellerie ainsi que la gestion des déchets pourront bénéficier de crédits compris entre 5 000 et 350 000 dollars. Le remboursement s'étale de 3 à 60 mois.
À présent, c'est notre rendez-vous sportif et nous invitons Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba, bonjour à tous.
Bonjour Nanit, bonjour à tous.
Mondial de futsal en Ouzbékistan pour commencer.
Oui, l'Afrique comptait 3 représentants dans cette compétition, le Maroc, l'Angola et la Libye. Il n'en reste plus qu'un, le Maroc qualifié pour les 8e de finale et qui affronte l'Iran. Notre consultant sportif à Casablanca, Amine Birouk, revient sur les performances de ces formations africaines.
Il n'en reste plus qu'un. Et est-ce qu'il est bien fringant après sa défaite 4-1 face au Portugal? Il s'agit du Maroc, triple champion d'Afrique, quart de finaliste il y a 3 ans en Lituanie et qui est arrivé en Ouzbékistan avec des aspirations. Mais visiblement, les blessures, peut-être le surentraînement, ont miné un peu le moral de l'équipe entraînée par Hichem Zgik. Maintenant, tout dépendra jeudi d'un match couperet face à l'Iran en 8e de finale à partir de 12h30 en temps universel. Couperet décidera de la qualification du Maroc en quart de finale et déterminera si la participation des Lions d'Atlas aura été bénéfique ou bien un simple fiasco. Du côté de l'Angola, c'est 3 défaites en 3 matchs et de nombreux points d'interrogation pour les vice-champions d'Afrique. Quant à la Libye, sa première victoire face à la Nouvelle-Zélande augurait d'une belle participation, mais visiblement, 2 lourdes défaites, et notamment devant l'Espagne avec 8 buts d'écart, ont éliminé les Libyens qui auraient pu passer en tant que meilleur 3e, mais ils sont en phase d'apprentissage. Le futsal africain a des lacunes, il a un retard à combler par rapport à l'Europe et à l'Asie centrale, et l'Amérique latine, il va falloir s'y coller, avec peut-être l'instauration d'une CAN tous les 2 ans au lieu de 4. La logique voudrait qu'on suive et qu'on imite le beach soccer qui a sa CAN tous les 2 ans. On se pose des questions par rapport au programme et à l'organisation de la CAN, notamment en matière de compétition. La CAF qui n'en est pas à une contradiction près. 4 ans pour le futsal, 2 ans pour le beach soccer et de nombreux points d'interrogation par rapport à l'avenir de ce sport.
Alors, justement, Amine Birouk, très rapidement, en 30 secondes, parlant de cette équipe du Maroc, je me souviens, juste avant le match contre le Portugal, le 3e, et donc lors de la 3e journée, eh bien, l'entraîneur portugais parlait d'une équipe marocaine qui fait partie des équipes les plus redoutables dans cette compétition. Est-ce que c'était du bluff, juste pour mettre la pression sur les Marocains ou c'était une VMD?
Les Marocains, sur les 3 dernières années, ont battu le Brésil, l'Argentine, l'Espagne en match amical. C'est une équipe au complet qui est redoutable, qui est solide, mais elle a perdu en cours de route 2 éléments importants.
Amine Birouk, consultant sportif, joint à Casablanca, au Maroc.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie. Voici notre page magazine avant de clore ce journal. Au Togo, le gouvernement vient d'adopter par ordonnance un nouveau code électoral en lien avec le nouveau système politique du régime parlementaire en vigueur dans le pays. Selon les autorités, le nouveau code est un texte qui tient compte des réalités togolaises et est le fruit des enseignements et des expériences passées du pays en matière électorale. De Lomé, notre correspondant Kossi Wusu.
Un peu plus de 4 mois après la promulgation de la nouvelle constitution qui a changé le système politique du Togo en un régime parlementaire, le gouvernement a pris une ordonnance pour doter le pays d'un nouveau code électoral. Selon la porte-parole du gouvernement, Yawa Kuigan, le nouveau code est le résultat d'adaptations techniques issues de diverses contributions.
Fruit des réflexions engagées pour améliorer le cadre électoral dans notre pays en tirant les leçons de l'organisation des différents scrutins au cours des dernières années, ce projet d'ordonnance portant code électoral permet donc de remédier aux insuffisances relevées dans le texte précédent et de respecter les nouvelles exigences en matière électorale.
À en croire les autorités, le texte a fait l'objet d'harmonisation entre les acteurs politiques réunis au sein du cadre permanent de concertation. Mais apparemment, il demeure des divergences quant à la situation des membres de l'actuelle Commission électorale nationale indépendante. CENI, en fin de mandat. Certains, comme Mohamed Tchassona Traoré, président du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, estiment que ces derniers doivent rester jusqu'aux prochaines élections sénatoriales.
On a dit, pour le renouvellement de la CENI, on pourrait poursuivre avec l'actuelle jusqu'à après les élections sénatoriales et changer la CENI si on se met d'accord sur sa nature et sa composition et qui doit la composer. Mais il est permis, déjà, aux partis qui sont représentés, lorsqu'ils veulent changer leurs représentants, de pouvoir le faire pendant cette période-là, avant les prochaines élections sénatoriales.
Ce n'est pas l'avis de Pascal Adoko de la Dynamique pour la majorité du peuple qui appelle au respect des textes sur la CENI.
Pour nous, le code électoral en question n'a pas été une préoccupation particulière, parce que ce n'est pas un défaut de texte, c'est plutôt les acteurs qui animent le processus électoral qui créent des problèmes. Tout ce que nous nous avons demandé, c'est que la loi électorale soit respectée. Et pour qu'elle soit respectée, on sait que la CENI, c'est 1 an. Les 1 an sont passés, les élections sont passées, il faut renouveler la CENI.
Sur ce sujet et bien d'autres, le gouvernement indique que le nouveau code va être transmis à la Cour constitutionnelle qui donnera son avis. Yawa Kuigan, porte-parole du gouvernement.
La constitution du 6 mai 2024 prévoit dans ses dispositions transitoires que les mesures qui sont nécessaires à la mise en place des institutions de la 5e République sont prises en Conseil des ministres par des ordonnances ayant force de loi. Le texte précise aussi que cela se fait après avis de la Cour constitutionnelle et s'il est estimé en harmonie, en phase conforme aux dispositions de notre Constitution, alors ce sera une ordonnance ayant force de loi portant code électoral.
Kossi Wusu, Lomé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Gabon, les députés et sénateurs de la transition réunis en assemblée constituante ont achevé hier l'examen du projet de constitution débuté le 12 septembre. D'après Jean-François Ndongou, président de l'assemblée constituante, ce projet veille à la séparation des pouvoirs, au renforcement des droits et des libertés individuelles. Le rapport contenant les recommandations sera remis au président de la transition, Brice Oligui Nguema. Le texte doit ensuite être adopté en Conseil des ministres, puis soumis au référendum d'ici la fin de l'année, selon le calendrier annoncé. Yacouba Ouedraogo a joint à Paris en France Aouchka Mustapha, présidente de l'association Trop c'est trop.
Il y a quand même eu 801 amendements et ça pose un problème en termes de démocratie puisqu'il parle de recul de la démocratie. La séparation des pouvoirs est remise en question puisque aujourd'hui le président de la République serait le président de la magistrature, en gros le chef du gouvernement. Donc on repart sur un régime présidentiel où là il y a une véritable problématique qui se pose et puis il y a une exclusion de certains Gabonais qui épouserait des femmes ou des hommes d'origine étrangère. Je suis mariée à un Béninois, par exemple, aujourd'hui, je suis exclue d'une éventuelle présentation en tant que président de la République. Donc ça pose quand même une problématique. Et aujourd'hui, on s'interroge sur l'avenir du Gabon, en tout cas en ces termes-là.
On va rappeler que jusque-là, c'est un projet de constitution et donc pas encore adopté, pas encore passé au référendum. Vous parlez justement de l'exclusion d'une certaine catégorie de Gabonais qui seraient mariés à des étrangers. En quoi c'est une exclusion?
Les Gabonais qui sont ou issus de parents étrangers ou épousant un étranger ou une étrangère, hein, peu importe si c'est une femme, selon si c'est une femme ou si c'est un homme qui se présente à l'élection présidentielle, ne sont pas autorisés à se présenter. Donc la candidature sera de fait rejetée. Il en est de même pour nous qui sommes en diaspora. Si aujourd'hui vous êtes en diaspora, vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Donc il y a une exclusion de fait.
Justement, vous parlez d'un régime présidentiel, effectivement, sans Premier ministre. Quelle est votre appréciation?
Il va y avoir un Premier ministre vraisemblablement qui s'occupera des réunions interministérielles, mais le pouvoir sera gardé par le Président de la République. Donc ça pose vraiment une problématique. Est-ce que le Président de la République sera en capacité de régler toutes les problématiques? Ne faut-il pas qu'il y ait une délégation de pouvoir? N'est-ce pas la raison pour laquelle il y a un chef du gouvernement? C'est autant de questions que nous nous posons aujourd'hui.
Il y a un mandat présidentiel de 7 ans, renouvelable une fois. Vous avez parlé des reculs de 50 ans, pourquoi?
Parce que les Gabonais se sont interrogés déjà sur cette question-là à l'époque de l'ancien régime. Et aujourd'hui, avec l'espoir qui est né en août 2023, une des raisons pour lesquelles les Gabonais étaient aussi un peu impatients d'avoir ce projet de constitution, c'était de voir et de revoir les conditions d'éligibilité du président de la République. 7 ans, c'est trop. 5 ans, ça me paraît raisonnable.
Aouchta Moustapha, présidente de l'association Trop c'est trop.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Joe Biden prononce son dernier discours présidentiel devant l'Assemblée générale des Nations Unies ce mardi, alors qu'il monte sur le podium de marbre vert pour la dernière fois. Le président Joe Biden devrait rencontrer séparément d'autres dirigeants à New York sur le conflit au Moyen-Orient. La correspondante de la Maison-Blanche de la VOA, Anita Powell, a fait le reportage depuis New York. Le récit est de Blanche Sanou.
C'est la dernière fois que le président Joe Biden s'adressera à un forum international majeur où des centaines de dirigeants se réunissent chaque année pour l'Assemblée générale des Nations Unies. Cela arrive à un moment crucial, a déclaré Linda Thomas Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies.
We say this every year.
Nous le disons chaque année, mais cette Assemblée générale des Nations Unies intervient à un moment plus critique et plus difficile dans le monde. La liste des crises et des conflits qui exigent une attention et une action ne semble que s'allonger. En tête de liste, Gaza. La position des États-Unis n'est pas en phase avec le reste de l'Assemblée qui a adopté la semaine dernière à une écrasante majorité une résolution exigeant qu'Israël mette fin à son occupation du territoire palestinien dans les 12 prochains mois. Les États-Unis figuraient parmi les 14 votes à dire non, ce qui, selon Thomas Greenfield, correspond à l'opposition de Washington aux mesures unilatérales qui sapent la perspective d'une solution à deux États. Les analystes s'attendent à ce que Biden discute de son soutien à Israël et à l'Ukraine dans son discours de cette année. Il souligne ces deux conflits comme des défis majeurs à la fin de sa présidence. Jim Kessler est le vice-président exécutif pour la politique Shutterway.
Avec le Moyen-Orient, cela ressemble à ce que vous savez. Comment garder le couvercle sur cela et espérer que le conflit ne dégénère pas en une guerre régionale? Et je pense que c'est la meilleure hypothèse que l'on puisse faire sur ce qui va se passer.
Malheureusement, une chose est claire, le conflit aura bientôt un an avec plus de 100 otages qui restent détenus par le Hamas. La Maison-Blanche affirme que leur rapatriement est sa priorité absolue et le pilier essentiel d'un accord visant à mettre fin au combat en Israël et le groupe militant. Jim Kessler a déclaré que de nouveaux dirigeants accueilleront chaleureusement Biden lors de son discours d'adieu, car il a utilisé son mandat pour reconstruire des alliances et établir des normes mondiales. Jim Kessler à nouveau.
Il y a beaucoup d'affection pour lui dans la plupart des pays, bien sûr. Il y en a quelques-uns où il n'y en a pas.
Le président Joe Biden devrait s'exprimer à New York mardi.
Alexandre Yfron, on y aura avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, plus de 130 chefs d'État et de gouvernement sont à New York pour la grande messe annuelle de l'ONU. C'est l'occasion pour la délégation des États africains de réclamer davantage de place pour le continent au sein des instances de l'organisation internationale. Les États-Unis ont récemment annoncé leur soutien à la création de 2 sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU pour des pays africains, mais sans droit de veto dans le cadre d'une réforme hypothétique de cet organe clé des Nations Unies. Pensez-vous que les Nations Unies devraient être reformées pour mieux refléter les réalités géopolitiques actuelles? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel dans Washington Forum sur VOA Afrique, voafrique.com, rediffusion samedi et dimanche.
Le changement climatique a de lourdes conséquences sur l'apiculture tunisienne. La hausse des températures et les sécheresses prolongées menacent les populations d'abeilles et la production de miel dans tout le pays, affirment les apiculteurs locaux. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Les apiculteurs tunisiens s'inquiètent du changement climatique qui décime les ruches. Dans la région de Zaghouane, l'apiculteur Bilal Slimane dit avoir été le témoin direct de l'impact dévastateur de ces changements environnementaux sur ses moyens de subsistance. Écoutons Bilal Slimane, apiculteur.
Les années précédentes, le climat était bon et le temps agréable. Il pleuvait beaucoup et les abeilles se multipliaient sans l'aide des apiculteurs. Cependant, ces dernières années, en particulier les 5 dernières années, il y a une sécheresse qui a considérablement épuisé les abeilles.
Les conséquences ont été graves pour Slimane, qui a signalé une perte de 65 ruches en 2023, ce qui constitue environ 70% de son stock total. La crise s'étend au-delà des apiculteurs individuels, affectant l'ensemble de la filière en Tunisie. Écoutons à nouveau Bilal Slimane, apiculteur.
En tant qu'apiculteur, j'ai perdu l'année dernière 65 ruches, soit environ 70% de mon rendement, à cause de la chaleur, des changements climatiques et de la sécheresse. Les 5 dernières années ont été marquées par une sécheresse importante, ce qui signifie que nous, les apiculteurs, sommes en difficulté et ne pouvons pas résister à ces changements.
Walid Nagara attribue cela à divers facteurs, notamment la diminution des précipitations, les incendies de forêt affectant les populations d'arbres et les maladies frappant les eucalyptus, qui sont une source de nectar pour les abeilles. L'impact de ces défis environnementaux s'est également traduit par une diminution des rendements en miel et la hausse des coûts de production. Écoutons Walib Nagara, apiculteur et membre de l'Union des apiculteurs arabes.
La production moyenne de miel par ruche était autrefois d'environ 12 kg par an. Aujourd'hui, nous parlons de 5 kg par ruche avec le même nombre de ruches. Avec l'augmentation des coûts et des exigences de production, cela affecte les revenus des apiculteurs et les prix du miel.
Cette baisse, associée à l'augmentation des dépenses, a entraîné une hausse des prix du miel et une baisse des revenus des apiculteurs. Écoutons à nouveau Walib Nagara, apiculteur et membre de l'Union des apiculteurs arabes.
Si nous ne pensons pas à utiliser les technologies modernes et à mener des recherches pour lutter contre le changement climatique et développer des abeilles résistantes aux maladies, nous ne verrons plus d'abeilles, ce qui, à son tour, affectera notre alimentation et nos produits agricoles.
En 2023, l'industrie apicole tunisienne s'est composée d'environ 13 000 apiculteurs gérant 305 000 ruches. Environ 75% de ces apiculteurs ont signé une baisse de la production de miel ces dernières années, en grande partie due aux effets du changement climatique, selon l'Office de l'élevage et du forage du ministère tunisien de l'Agriculture.
This is the voice of America. Washington, D.C.
C'est la fin du monde aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous. À la présentation, Nani Vitalani. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. À la technique, Kelvin Fowler. Pour rester informé en temps réel, rendez-vous sur notre site et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir et à bientôt.